d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 30 août 2018. Peine de 5 ans de prison confirmée pour le maire de Dakar, Khalifa Sall. Ouverture au Gabon du procès de l'ex-ministre du pétrole Étienne Dieudonné Ngoubou pour détournement de fonds publics. En République du Congo, la commission anticorruption pointe du doigt le ministre des hydrocarbures Jean-Marc Tister Tshikaya. Le président du Sénat nigérian Bukola Saraki se déclare candidat à la présidentielle face au président Buhari, son ancien allié. Et Theresa May a bouclé sa tournée africaine par le Kenya. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. Au Sénégal, la cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation du maire de la capitale. Candidat déclaré à la présidence, Khalifa Sall purgera 5 ans de prison assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA pour détournement de fonds publics. Le point avec notre correspondant, Seydina Abagay.
Le maire de Dakar vient de subir un nouveau coup dur dans sa quête de liberté avec cette confirmation du jugement en première instance. La cour d'appel a d'ailleurs eu la main plus lourde en jugeant recevable la constitution de l'État du Sénégal comme partie civile. Khalifa Sall et deux de ses co-accusés devront donc payer des dommages et intérêts estimés à 1,830 milliards de francs CFA. Considéré comme l'un des plus sérieux challengers du président Macky Sall, le maire de Dakar a pour le moment peu de chances de participer à l'élection présidentielle de 2019. En détention depuis mars 2017, Khalifa Sall a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement entre 2011 et 2015 de plus d'1,5 milliard des caisses de la ville de Dakar. Dissident du Parti socialiste et de la majorité présidentielle, Khalifa Sall a toujours affirmé que ses poursuites à son encontre visent à l'empêcher de briguer la présidence de la République. Autre prétendant ayant son destin entre les mains de la justice, Karim Wad verra la Cour suprême se prononcer sur son recours en cassation ce jeudi 30 août. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wad avait vu sa demande d'inscription sur les listes électorales lui être refusée, ce qui l'empêche pour le moment d'être lui aussi candidat à la présidentielle de 2019. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le président du Sénat nigérian, Bukola Saraki, s'est déclaré candidat à la primaire du parti d'opposition PDP qu'il a rejoint il y a un mois en faisant défection du parti présidentiel. J'annonce ainsi mon intention de concourir à la position de président de la République fédérale du Nigeria et de participer aux élections générales de 2019 sous la bannière du Parti populaire démocratique, a-t-il annoncé. Au Gabon, la Cour criminelle spéciale de Libreville a ouvert ce jeudi le procès d'un ex-ministre du pétrole accusé de détournement de fonds publics qui est en détention préventive depuis 19 mois. Eric Manirakidza nous en dit plus.
L'ex-ministre des hydrocarbures Étienne Dieudonné Ngoubou est le premier membre du gouvernement à comparaître devant la Cour criminelle spéciale. Il est accusé d'avoir détourné 5 milliards de francs CFA. Il a été arrêté le 12 janvier 2017 dans le cadre de l'opération Mamba ou opération Main Propre. Plusieurs hauts responsables ont été aussi arrêtés, dont Magloire Ngambia, ex-ministre de l'économie et conseiller à la présidence, qui est en prison depuis le 10 janvier 2017. Créée en 2018, la Cour criminelle spéciale juge les auteurs présumés de détournement de fonds publics d'un montant supérieur à 250 000 francs CFA. Elle a débuté les procès le 15 mars 2018. Elle a déjà condamné à 20 ans de prison en avril dernier Blaise Wada, ancien directeur général de l'unité de coordination des études et des travaux, pour avoir touché des commissions dans des attributions de marché. Les avocats de la défense dénoncent une opération à visée politique qui touche de manière sélective les auteurs de détournement de fonds publics au Gabon.
En République du Congo, le président de la commission anticorruption, Lamir Nguele, a confirmé devant la presse les détournements de fonds au ministère des hydrocarbures, citant le ministre Jean-Marc Tister Tshikaya comme coupable de ces détournements, ce qui a irrité la majorité présidentielle. Les précisions avec notre correspondant Arsène Séverin.
Après avoir indexé le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tikaya, accusé d'avoir détourné des fonds destinés à construire à Brazzaville le siège de l'Organisation de pays africains producteurs de pétrole, la commission anticorruption et son président Lamine Guélé ont été pris à partie par les partis de la majorité présidentielle. Ces derniers contestent l'indépendance de cette commission et manifestent leur solidarité en l'endroit du ministre Tister-Tikaya. Surpris par ces attaques de tous côtés, le président de la commission anticorruption a maintenu ce mercredi devant la presse ses accusations contre le ministre du pétrole, Lamine Nguélé.
Monsieur Tikaya a été écouté. Je ne rentre pas dans les faits. Il a été écouté, abondamment écouté. Il a lu, il a signé son procès verbal avec la mention « lu et approuvé ». Je m'arrête là.
Comme on le voit, la lutte contre la corruption lancée dans le pays peine à prendre véritablement ses marques, surtout quand il s'agit de s'attaquer au grand poisson. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Des humanitaires ont annoncé le début de la distribution de vivres aux personnes touchées par le virus Ebola dans l'est de la RDC. Au total, 115 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, a indiqué le ministère de la Santé dans son dernier bulletin sur la situation épidémiologique arrêté au 28 août. Après quelques jours d'accalmie, deux décès ont été enregistrés à Beni, portant à 77 le nombre total de décès. La première ministre britannique a terminé aujourd'hui sa tournée africaine. À Nairobi, Theresa May a souligné l'importance d'un partenariat renouvelé avec le Kenya. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Au terme d'une rencontre de près de deux heures, le président kényan Uhuru Kenyatta et Theresa May ont insisté sur l'importance des liens entre le Royaume-Uni et son ancienne colonie. Aujourd'hui, nous avons regardé vers l'avenir, vers un partenariat renouvelé qui va débloquer l'incroyable potentiel de la prochaine génération pour nos deux pays, a déclaré Madame May. Et de son côté, Uhuru Kenyatta a ajouté « Je ne vois pas le Brexit comme quoi que ce soit de préjudiciable aux liens forts qui sont les nôtres ». Cette tournée, débutée mardi en Afrique du Sud et poursuivie mercredi au Nigeria, fait suite à la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. Londres tente de décrocher de nouveaux partenaires et de nouveaux marchés. Mardi, au Cap, Mme May a annoncé une nouvelle enveloppe de 4 milliards de livres d'investissement dans les économies africaines, assurant vouloir devenir le premier investisseur occidental sur ce continent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France, défenseur de l'accord sur le nucléaire iranien, a haussé le ton aujourd'hui, prévenant l'Iran qu'il ne pourra pas échapper à des négociations élargies au-delà des seuls engagements contenus dans le texte de 2015 dénoncé par les États-Unis. Le rôle du pays dans les questions de sécurité régionale est l'un des autres points préoccupants, estimé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, avant une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Vienne. Le ministre français a dit vouloir adresser un message à Téhéran alors que les Européens tentent de sauver l'accord visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. Les États-Unis se sont retirés en mai dernier de ce texte qu'ils jugent trop laxiste. La Russie a annoncé des manœuvres militaires en Méditerranée du 1er au 8 septembre alors que l'offensive de Damas sur Idlib, dernier bastion des insurgés, semble imminente. Dans un communiqué cité par les agences russes, le ministère de la Défense a indiqué prévoir le déploiement de plus de 25 navires sous commandement du croiseur lance-missile amiral Ustinov et près de 30 avions pour ces exercices, dont des bombardiers stratégiques. Et le régime de Damas est résolu à libérer tout le territoire syrien, a assuré le chef de la diplomatie syrienne. Qu'il y ait une agression tripartite ou pas, cela n'influencera pas notre détermination à libérer tout le territoire syrien, a déclaré Walid Mualem à l'issue des pourparlers avec son homologue Sergueï Lavrov. Le ministre russe a déjà déclaré mercredi espérer que les pays occidentaux n'allaient pas entraver l'opération antiterroriste à Idlib. La coalition internationale menée par les États-Unis en Syrie et en Irak a reconnu la mort de 1061 civils au cours de frappes aériennes depuis le début de l'opération en 2014. La coalition a mené près de 30 000 frappes depuis août 2014. 2014, indique-t-elle dans un communiqué, estimant sur la base des informations disponibles qu'au moins 1061 civils ont été involontairement tués par des frappes de la coalition. La marine américaine a intercepté une embarcation chargée de centaines de fusils d'assaut dans le golfe d'Aden et a remis les marins aux autorités yéménites, a-t-on appris ce jeudi de sources militaires américaines. L'incident s'est produit mardi quand des marins du destroyer USS Jason Dunham ont accosté une petite embarcation en difficulté. Ils ont trouvé à bord 600 sacs remplis d'armes, des kalachnikovs pour la plupart. Le Canada a souligné ce jeudi à Washington rester optimiste sur la possibilité de s'entendre d'ici à vendredi avec les États-Unis sur un nouvel accord de libre-échange nord-américain. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a relevé que les deux parties étaient animées d'une bonne volonté pour conclure ces tractations qui durent depuis plus d'un an. Et le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant l'acteur Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle après une plainte déposée lundi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Sénégal et la Banque mondiale ont signé 3 accords de financement pour 220 millions de dollars. L'enveloppe servira dans les secteurs de l'eau, de la résilience et de l'éducation. D'après les prévisions, 1,5 million de personnes en milieu rural pourront accéder à l'eau courante et aux installations sanitaires améliorées. Le projet Eau et assainissement en milieu rural sera mise en œuvre dans la zone du bassin arachidier dans le centre-ouest du pays qui abrite un tiers de la population rurale du Sénégal. 927 familles seront relogées de manière permanente pour quitter la zone à très fort risque d'érosion et de submersion marine sur le long de la langue de Barbarie. La Banque centrale du Nigeria a ordonné aux géants des télécoms sud-africaines MTN de restituer plus de 8 milliards de dollars transférés à l'étranger sans autorisation. 4 banques qui ont facilité l'opération doivent payer une amende cumulée de 14 millions d'euros pour violation flagrante des règles de transfert et de taux de change.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a convoqué 23 éléphants pour le déplacement au Rwanda.
Ibrahim Camara et ses poulains feront face au Rwanda le 9 septembre pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Plusieurs cadres ne figurent pas sur sa liste, à l'instar de Wilfried Zaha et de Yaya Touré qui voient son retour en sélection à nouveau reporté. Gervinho, Salomon Kalou, Wilfried Boni, Seydou Doumbia sont quant à eux laissés de côté car blessés ou à court de forme. En revanche, on note le retour de Jonathan Kodia et de Serge Nguessan. Le défenseur central Kwadjo Dabila et l'attaquant Bayo Vakoum sont les surprises de cette liste. Nicolas Pepe et Maxwell Cornet sont eux aussi là, aux côtés des cadres comme Eric Bailly, Serge Aurier, Jean-Michel Seri ou encore Max-Alain Gradel.
Au Bénin, 48 heures après la publication de sa liste, Michel Dussuyer a expliqué ses choix aujourd'hui.
C'était lors d'une conférence de presse à Cotonou. Notre correspondant Élisée Oumpatine y était. Voici son compte-rendu.
L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a déclaré qu'il assume le choix de ses 21 joueurs et confirme qu'il est bel et bien l'auteur de cette liste. Il a toutefois tenu à justifier l'absence de certains joueurs, notamment les binationaux Sébio Soukou et Yannick Agémon, pour qui il reste quelques détails administratifs. Du côté des blessés, c'est le forfait de Emmanuel Imourou qui est confirmé. Michel Dussuyer, qui revient à la tête des écureuils 8 ans après l'avoir quitté, a parlé également de la préparation.
Un sélectionneur, il a ses joueurs 5 jours avant le match. Il a vraiment pour travailler en profondeur 2 ou 3 jours, puisque bon, quand ils arrivent, ils sortent d'un match. Après, il faut relâcher aussi avant l'autre match. Donc je dirais, plus qu'en club, en sélection, il faut du temps pour arriver à imposer une identité, imposer un style.
Les joueurs sont attendus le lundi pour un premier entraînement, a expliqué le sélectionneur. Le groupe prendra départ pour Lomé le vendredi dans l'après-midi. Cotonou, Élisée Oumpatine, VOA Afrique.
En athlétisme, David Okeyo a été banni à vie de l'IAF.
Le Kenyan, membre du conseil de la fédération, a été exclu à vie par la commission d'éthique de l'IAF. Il lui est reproché d'avoir détourné des fonds d'un contrat de partenariat entre la fédération kenyane et l'équipementier Nike. David Okeyo, qui était aussi directeur général de la fédération kenyane, avait été suspendu provisoirement en novembre 2015, de même que le président de la fédération kenyane d'athlétisme, Isaiah Kiplaga, décédé en août 2016, et son trésorier Joseph Kinua.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Mali, la convocation du collège électoral pour l'élection des députés divise la classe politique. Si les partis de la majorité présidentielle sont prêts, tel n'est pas le cas dans les rangs de l'opposition. Les opposants estiment en effet que les contestations nées de la présidentielle doivent être réglées avant les législatives, alors que le camp présidentiel dit vouloir respecter le délai constitutionnel. Kassim Traoré nous en dit plus.
La convocation du collège électoral pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale est une exigence de la constitution malienne. Amadou Koïta, ministre porte-parole du gouvernement malien.
L'article 31 de la constitution malienne précise que les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Et la loi électorale modifiée précise également que le collège électoral doit être convoqué 60 jours avant la fin du mandat d'été. Voilà pourquoi le gouvernement hier, lors de son conseil des ministres, a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, l'ouverture et la clôture des campagnes à l'occasion de l'élection des députés. Donc, le collège est convoqué pour le 28 octobre, le premier tour le 28 octobre, le second tour le 18 novembre.
Dans les camps de l'opposition, l'heure n'est pas à l'organisation des législatives. Noum Togo, secrétaire à la communication des partis politiques de l'opposition.
C'est la provocation. Nous sentons que nous n'avons même pas fini d'abord de régler ce qui se passe sur l'élection présidentielle. Parce que pour nous, nous avons gagné l'élection. S'il y a l'organisation des élections législatives, c'est notre gouvernement qui doit organiser les élections. Donc, à ce de la chose, nous pensons réellement que ce n'est pas l'ordre du jour. Le président Soumaïla a été choisi par le peuple malien. Il y a l'organisation à faire des élections législatives, c'est à lui d'organiser. Pour nous, donc, nous ne sommes pas à l'ordre du jour.
Les formations politiques de la majorité présidentielle se réjouissent de cette décision gouvernementale à l'image de la présidente du PRD, Assetou Sangaré Robichaud.
Ça a été un moment de joie au sein de notre parti, c'est-à-dire le PRD, parce que c'est une élection que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Saluons la décision de convocation du collège électoral. Le PRD est prêt pour cette bataille de l'élection des députés dans notre circonscription en commune 4. On s'y prépare depuis plusieurs années. Donc, nous, à notre niveau, s'il s'agit d'aller à ça même demain, nous sommes sur le quai-vive et nous sommes dans les starting blocks.
Face à ce qu'il qualifie de fraude incommensurable, les partis Sali rejettent l'organisation des législatives. Docteur Alaï Boukoum, secrétaire chargé des luttes sociales au parti Sadi.
Puisqu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle, on va nous mettre encore dans les élections législatives pour un tout petit peu édulcorer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup nous étonner qu'ils puissent organiser ces élections dans les bonnes conditions. Mais cette fois-ci, ce serait encore plus difficile, puisque chacun va faire beaucoup plus attention. Donc la fraude qu'ils ont faite là pendant les élections, leur parodie d'élection, cette fraude ne passera pas.
Assetou Sangaré Robichaud préconise un dialogue autour du président de la République.
La pression politique qu'ils essayent de faire monter concernant une soi-disant fraude électorale, ceci, hold-up électoral. Moi, une fois de plus, le président a tendu la main, le président élu Elie Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main à son frère, aux membres de l'opposition. Si les causes, les combats sont pour le Mali et rien que pour le Mali, c'est le moment de prendre cette main tendue, qu'on s'asseye, qu'on dialogue, qu'on discute et qu'on trouve ensemble les voies et moyens pour amener encore plus de stabilité, de tranquillité, de paix pour notre Mali.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président Denis Sassou Nguesso, est de plus en plus perçu comme potentiel candidat de la majorité à l'élection présidentielle de 2021. Sa fondation Perspective d'avenir lui permet de sillonner le pays en menant des actions humanitaires. Mais il affirme qu'il ne sera pas candidat. Voici un reportage sur ce sujet de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Tout le monde le voyait en campagne électorale. Le chef de file de l'opposition, Pascal Tsatsimabiala, s'en était plaint à l'Assemblée nationale. Ce semblant de longueur d'avance sur les autres acteurs politiques dérange également au sein même du PCT, le parti au pouvoir et à la majorité présidentielle. Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, rappelle à l'ordre tous les militants qui ont créé des initiatives citoyennes autour de Denis Christel Sassou Nguesso.
Le secrétariat général du Parti Congolais du Travail ne s'est jamais rangé derrière cette initiative-là. Et nous demandons aux nôtres, à tous les niveaux, de se tenir en dehors de ce qui se passe, qui n'engage en rien le Parti Congolais du Travail. Ceux qui ont pris l'option de suivre ce chemin-là, bien, demain, ils répondront devant le parti.
Mais pour rassurer tout le monde, Denis Christel Sassou Nguesso déclare nourrir aucune ambition pour la présidentielle de 2021. Il ne voit à cette place que l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso.
On ne peut pas parler de reculade parce que je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais candidat en 2021. Et pourquoi est-ce que je pense que le président Denis Sassou Nguesso est le meilleur candidat? C'est parce que lorsque vous regardez toute la classe politique congolaise aujourd'hui, je ne vois aucun homme politique qui a la capacité de pouvoir stabiliser ce pays et surtout de pouvoir permettre de continuer le développement économique, social et politique de notre pays.
Les relations que j'entretiens avec mon parti, le Parti Congolais du Travail, jusqu'à preuve du contraire, sont très bonnes. Mais vous savez, hein, il y a au sein du parti des gens qui m'apprécient et il y en a d'autres qui ne m'apprécient pas, mais la vie politique est ainsi faite et je peux vous assurer que je m'en accommode très bien.
Les observateurs de la politique congolaise ont aussi leur avis. Voici l'analyse du politologue Constant Ibarapeya.
De toute manière, il n'a jamais dit qu'il devait être candidat, jusque-là. Ceux qui faisaient les initiatives en ces lieux place n'ont jamais dit qu'il devait être candidat. Ils disaient que c'était une réflexion. Mais on connaît, nous sommes au Congo, on sait comment ces choses fonctionnent. Lorsque quelqu'un a des ambitions présidentielles ou au niveau de députation et autres, on voit comment multiplie ces gens des initiatives. Et son parti a pris position en indexant ceux qui vont le suivre dans cette aventure et pensent qu'il était de bonne loi, qu'il s'est un peu de reculer pour dire que je ne serai pas candidat.
La déclaration de Denis Christel Sassou Nguesso devait contribuer à apaiser la tension au sein de la majorité présidentielle et à remettre de l'ordre au Parti congolais du travail. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La chancelière allemande Angela Merkel poursuit sa tournée africaine entamée hier. Après le Sénégal, où elle était accompagnée d'investisseurs, elle se rend ce soir au Ghana avant le Nigeria, dernière étape de sa tournée. Madame Merkel s'était aussi rendue au Mali et au Niger en 2016. Joint par Abdourahmane Dia, l'analyste sénégalais Ali Ba, qui a vécu 25 ans en Allemagne, nous explique pourquoi un tel regain d'intérêt de Berlin vis-à-vis de l'Afrique.
Bon, je crois que l'Allemagne, c'est la plus grande puissance économique de l'Europe, qui se rend compte que le futur de ce monde se trouve en Afrique et que l'Allemagne est très en retard par rapport aux autres pays en Afrique. La France, l'Angleterre avaient immensément de colonies. En dehors de ça, il y a la Chine qui a fait une saignée en Afrique, parce qu'en Afrique, qui est très présente, qui finance immensément de projets. Et il y a les autres pays asiatiques aussi qui viennent. Il y a l'Inde, il y a le Pakistan. Récemment, si on voit, il y a la Turquie qui est très présente aussi en Afrique. Et même les pays du Maghreb et l'Allemagne, qui est une puissance, s'est rendu compte que si elle ne réagit pas, ben, elle risque d'être surprise dans quelques années.
Alors, Angela Merkel avait effectué une première visite en Afrique en 2016, notamment au Mali et au Niger, où il était beaucoup question de sécurité et d'immigration. Mais cette fois, elle visite des pays où elle semble plutôt s'intéresser au volet économique, notamment le Sénégal, le Ghana et le Nigeria.
Oui, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle a annoncé ça hier, que cette visite est purement économique. Elle est venue avec beaucoup d'investisseurs. Et ce qu'ils veulent, vraiment, ce que les Allemands veulent, c'est des marchés, des débouchés, des projets et vendre la destination de l'Allemagne, les produits allemands et les hommes d'affaires allemands. Et cette visite, elle est purement économique cette fois-ci.
Alors, un journaliste allemand a justement demandé au président sénégalais Macky Sall s'il préférait la coopération chinoise à celle des autres. Et la réponse du président sénégalais était que le Sénégal était ouvert à tout le monde. Est-ce que l'Allemagne, avec cette question, veut faire un peu comme la Chine ou elle a plutôt peur de la Chine?
L'Allemagne, d'une part, a peur de la Chine parce qu'elle se rend compte que la Chine, comme je vous ai dit, est en train de tout rafler en Afrique. Mais l'Allemagne a besoin aussi d'être présent dans d'autres pays en dehors des pays européens, en dehors de ses partenaires traditionnels.
Mais justement, comment l'Afrique peut profiter de ce regain d'intérêt de l'Allemagne pour le continent?
Je crois que le premier point, je crois que c'est le volet formation. Le volet formation, les Allemands ont un système de formation extrêmement efficace, très productif. C'est le dualisme là, entre l'étude et l'entreprise, ce qui s'applique de plus en plus au Sénégal d'ailleurs. Sur un autre volet, il y a la qualité des produits allemands, la qualité du travail allemand. Je crois que si aujourd'hui il y a un côté aussi où l'Afrique doit copier sur l'Allemagne, c'est le côté rigueur, le côté organisateur, le côté professionnalisme, le côté travail.
L'analyste Ali Ba était joint à Dakar au Sénégal.
Et Kiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission à votre avis. Hier, la direction des écoles militaires au Mali a abrité la cérémonie de départ de la cohorte 2018 du premier convoi composé de 600 jeunes non fonctionnaires pour la formation commune de base du service national des jeunes dans un centre d'instruction. Cela vous semble-t-il une bonne ou mauvaise chose? Êtes-vous pour le rétablissement du service militaire et civil dans votre pays? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site www.voafrique.com.
Au Nigeria, des femmes tentent de s'imposer dans l'industrie artistique du pays, un secteur encore dominé par les hommes. Gros plan sur leurs activités dans un reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VO Afrique à Abuja, au Nigeria.
Situé dans un quartier chic d'Abuja, la capitale fédérale nigérienne, le Centre des arts et métiers Culture Code Art Hub est une véritable ruche de l'industrie artistique du pays. C'est ici que l'artiste Chinze Ojobo gagne sa vie en faisant ce qu'elle aime le plus au monde, peindre. Après 25 ans de carrière, Chinze est devenue célèbre non seulement pour la qualité de ses tableaux, mais aussi parce qu'elle dirige aujourd'hui l'Association des femmes peintres d'Abuja.
Yeah, the art scene in Nigeria is growing. Nigeria has lots and lots of artists. We have so many art schools and our students are graduating year by year, so we have too many artists. And so we need to have a place where they can gather their works together, exhibit their works, sell their works. Because the ultimate thing for every artist is to have his work sold. And so that's what we're doing here.
Comme Chinze, Dauphin Gwagul est une autre artiste qui émerge dans ce secteur dominé par les hommes. Elle est aussi heureuse de voir ses peintures s'imposer dans un marché très compétitif.
Well, my experience as an artist is I've always just loved to express myself, you know, in my work, and then I also use the experiences of others too in my work, and then I also think about the society and how I can use art as a medium to communicate.
Ouvert il y a seulement 4 mois par Chinze Ojobo, le Centre des arts et métiers Culture Code Art Hub attire déjà un grand nombre de visiteurs curieux de découvrir la variété des produits exposés et mis en vente. Certains d'entre eux trouvent que le Centre des arts et métiers d'Abuja est un bon endroit où passer le temps. C'est le cas du docteur Timothy Umwezi, venu des États-Unis pour des vacances au Nigeria.
Coming in here right now, obviously from what I've been seeing in previous galleries that I've visited, there's a lot of creativity here. There's no doubt about that. Their paintings, we are just sweet and superb.
Avec le développement croissant de l'industrie artistique du Nigeria, le Centre des arts et métiers d'Abuja met en valeur les meilleurs talents du pays. Il s'ajoute ainsi aux nombreuses destinations touristiques que compte le Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Michel Joseph à la console Nachouane Kalé, à la présentation Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. très bonne soirée à toutes et à tous, notamment en compagnie de Henri Francisque, pour un tour d'horizon de l'actualité dans le monde.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,